Bonjour à tous. Après les tirs de mardi à Gap, les juges du tribunal correctionnel ont rendu leur délibéré hier. 3 ans de prison avec sursis probatoire dans l'affaire des coups de feu. Un litige commercial était à l'origine du différend entre un employeur et son ex-employé. Une fillette de 9 ans blessée gravement sur la station du Cénius à Alos. La jeune fille a percuté un arbre vers 11h hier. Elle a été héliportée sur un hôpital niçois. La réhabilitation de l'hôpital d'Embrun, à la fois un projet pour les JO et un héritage pour les habitants. Ce sont les mots de Catherine Vautrin, ministre avec plusieurs portefeuilles, dont celui de la santé. Elle a affirmé lors de son déplacement hier vouloir garantir une offre de soins conséquente sur le territoire. Une nouvelle cantine pour les élèves de l'école Édouard Delaplane assisteront. Un bâtiment qui permet moins de fatigue chez les élèves. Moins de pollution aussi, car jusqu'alors, les enfants prenaient le bus pour aller à la cantine en centre-ville. Une époque révolue avec l'installation officiellement inaugurée hier. Et puis ce soir, début des matchs de la poule de maintien au hockey sur glace. Des matchs à domicile pour les clubs haut alpins. Les Rapaces de Gap accueillent Cergy Pontoise et les Diables Rouges de Briançon anglais. Deux rencontres qui débutent à 20h dans les patinoires respectives des clubs haut alpins. On débute ces actualités de la mi-journée avec les juges qui ont rendu leur verdict dans l'affaire des coups de feu tirés mardi à Gap, près du centre de tri postal. Un homme de 38 ans était jugé hier après-midi devant le tribunal correctionnel pour violence avec usage d'une arme sur son ancien employé, 48 ans. La victime avait été lourdement blessée au pied. Cyril Cavamichard, vous avez suivi l'audience pour Alpe 1. Un litige commercial et la peur, voilà ce qui aurait conduit le prévenu à cet acte.
À la barre, c'est un homme semblant sincère qui s'exprime. Il reconnaît sa faute, je m'excuse profondément, mais on ne vole pas des clients. La trahison semble lourde d'avoir été trahi par celui à qui il a laissé sa chance il y a 2 ans. Lourde parce que son entreprise, cet homme né en Russie, l'a montée au prix de sa sueur. Il y a travaillé énormément pour la faire fructifier, en faire vivre sa famille, mais aussi 7 employés sous sa houlette aujourd'hui. Quand en décembre dernier, la victime lui dit démissionner, il ne sait pas que c'est pour ouvrir une entreprise concurrente. Pourtant, quelques semaines plus tard, il le soupçonne d'être parti avec des documents pour lui voler ses clients. Qui n'aurait pas été en colère ce jour-là, demande l'avocat de la défense, Maître Charmasson. La colère, c'est justement ce qui le pousse mardi à appeler son ex-employé. Le ton monte au téléphone. Il m'a dit qu'il viendrait chez moi. Je ne voulais pas devant mon enfant. Alors le prévenu grimpe dans sa voiture avec une arme, une sorte de pistolet chargé de poudre et de plomb. Et quand il croise la victime 300 mètres plus loin, il sort de son véhicule. Il mettait sa main dans sa poche. J'ai eu peur qu'il ait un couteau. Le prévenu tire en visant le sol 2 fois. Mais son ancien employé est touché au pied. Peut-être que vous avez eu peur, réagit la substitut du procureur, mais on ne se défend pas en attaquant, avant de requérir 1 an de prison ferme avec placement sous mandat de dépôt. L'incompréhension totale pour l'avocat de la défense, sa vie va voler en éclats. S'il plaide le moment d'égarement, il rappelle l'intégration sociale de son client dont la justice n'a jamais entendu parler. Un sursis simple et suffisant pour quelqu'un qui a montré son honorabilité. Après quelques minutes de délibéré, le tribunal décide finalement d'une peine d'avertissement, comme le souligne le président. 3 ans de prison avec sursis probatoire et l'interdiction d'entrer en contact ou de se rendre au domicile de la victime.
Merci Cyrielle. Et puis dans l'actualité judiciaire, un homme devant la justice pour avoir prélevé des fossiles dans la réserve géologique de Haute-Provence. Ce quadragénaire originaire du Var était déjà connu pour ce même type de délit. L'homme va être présenté devant le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains pour non-respect d'interdiction éditée dans un périmètre de protection d'une réserve naturelle et pour prélèvement illicite sur un site d'intérêt géologique. L'intégralité des fossiles découverts, soit environ 47 scellés, dont certaines pièces remarquables, ont été reversées à la réserve géologique. Une fillette de 9 ans blessée gravement après avoir percuté un arbre, c'était sur la station du Cénius à Alos hier. Selon les premiers éléments, l'enfant et son père se trouvaient sur une piste fermée en fin de matinée. Secourue dans un premier temps par les pisteurs de la station, la petite fille a été finalement prise en charge par le PGHM de Josiers. C'est grâce à leur hélicoptère qu'elle a pu être évacuée par les airs sur un hôpital niçois. L'importance de la réhabilitation de l'hôpital d'Embrun, rappelée par la ministre de la Santé en personne, Catherine Vautrin, ministre du Travail, des Solidarités et des Familles et donc de la Santé, était dans le bâtiment hier matin à la rencontre des élus et du personnel. Organiser les flux, permettre de mieux stationner, rendre le site plus accessible, mais aussi garantir une offre de soins conséquente, tels sont les objectifs de ce chantier. La livraison du bâtiment est attendue, elle, pour 2029, soit juste avant les JO d'hiver de 2030. Reportage d'Aurore Valory.
C'est maintenant le démarrage d'un projet pour Embrun et pour les Hautes-Alpes, s'est enthousiasmée Catherine Vautrin. 19 millions d'euros sont mis sur la table par l'État, 3 millions par la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour un projet qui avoisine les 30 millions d'euros. Un projet pour les Jeux Olympiques et un héritage pour les habitants après ces derniers, selon la ministre. Même si, on le rappelle, le projet de restructuration a été acté avant l'attribution des Jeux. Catherine Vautrin qui a salué le modèle organisationnel mis en place dans le territoire. Elle a aussi rappelé que la fin du numerus clausus permet de plus former des réponses, selon elle, face aux déserts médicaux.
Au mois de septembre prochain, vous aurez 9 000 internes qui vont sortir. C'est une première, vous en aurez 10 000 l'année prochaine. Donc c'est une première réponse en nombre de médecins formés. Après, nous avons l'organisation. Et vous avez ici, avec le groupement hospitalier du territoire, une très belle déclinaison de la capacité à s'organiser pour offrir un service de soins 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui est tout à fait important. Donc c'est à la fois de la formation des professionnels de santé et de l'organisation. C'est aussi, bien évidemment, l'organisation notamment en matière d'urgence avec la régulation pour avoir la bonne réponse au bon moment.
Les urgences d'Embrun, qui accueillent chaque année 9000 passages selon la maire et présidente du conseil de surveillance, Chantal Emehoud, un chiffre en augmentation régulière, notamment en période touristique.
Il y a une population touristique dont le flux ne cesse d'augmenter, puisqu'on est de plus en plus sur finalement un tourisme 4 saisons avec des week-ends qui sont très fréquentés. Et là aussi, il est vraiment important que cet hôpital soit restructuré, modernisé, arrive à offrir une prise en charge qui soit mieux structurée que précédemment, avec des urgences en rez-de-chaussée. Aujourd'hui, elles sont au premier étage. L'installation d'un scanner qui confirmera là aussi le maintien d'une radiologie qui est essentielle dans un secteur comme le nôtre, et le maintien bien sûr de ce qu'on a, médecine polyvalente, les EHPAD et autres.
Et ce jeudi, cette visite ministérielle a été l'occasion de confirmer l'installation du scanner au sein de l'hôpital avant même la fin des travaux.
Merci Aurore. En bref, l'accueil des urgences de Manosque fermé toutes les nuits jusqu'au 10 mars inclus. Le service reste ouvert en journée entre 8h30 et 18h30. La prise en charge des urgences vitales reste assurée avec le SMUR 24 heures sur 24, tout comme la prise en charge des femmes enceintes. Il faut contacter le 15 pour bénéficier de la régulation. Le directeur académique basalpin, Michael Cabec, a fait son dernier déplacement officiel à Sisteron hier. Celui qui va occuper ce poste jusqu'à vendredi prochain était présent à l'inauguration de la nouvelle cantine de l'école Édouard de la Plane, un lieu de restauration flambant neuf avec une grande salle de 110 mètres carrés pour accueillir 112 élèves en même temps. Le résultat d'une politique engagée par Daniel Spagnou, le maire de la ville. Ce bâtiment va changer le quotidien des enfants.
Jusqu'à maintenant, il y avait des cars qui les prenaient. Donc à 11h30, qui les menait en ville, au Tivoli, où il y avait la grande cantine pour toutes les écoles. C'était du temps perdu et du temps fatigant pour les élèves. Nous, ça nous coûtait très cher parce qu'il fallait louer des cars. Et en même temps, je crois que pour le CO2, ce n'était pas formidable. Donc on a décidé, eh bien, dans chaque groupe scolaire, de créer un lieu où les enfants peuvent manger. Voilà, l'avantage, c'est de laisser les enfants sur place, profiter pleinement, ce qui fait qu'ils ont plus de temps pour manger. Et le temps qu'ils passaient dans les cars, où souvent ils s'énervaient, eh bien, ils le passent dans les cours, ici. Et ça crée une ambiance formidable entre les enfants, les enseignants, les employés communaux et nous, les élus, parce que moi, je fais partie des élus qui viennent souvent manger à la cantine.
Au total, la ville a investi un montant d'€1,1 million avec une aide de l'État qui s'élève à 200 000 €. Une troisième cantine scolaire est en projet, celle de l'école Simone Veil dans le quartier de la Baume. Le surendettement des ménages dans les Hautes-Alpes en augmentation. L'an dernier, la commission de surendettement du département a comptabilisé 241 dossiers. L'an dernier, cela concerne 260 Hauts-Alpins. Le nombre de dossiers traités est en augmentation de 18,1% par rapport à 2023. Une progression qui est la plus élevée de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur entre 2023 et 2024. Mais les Hautes-Alpes restent dans la région et en France un des départements avec le niveau le plus bas de dossiers pour 100 000 habitants. Ce chiffre est de 245 en France en moyenne, 251 dans la région PACA et seulement 199 dans le 0,5. Les agriculteurs des Alpes du Sud sont les plus pauvres de la région Sud. C'est ce qui ressort de la dernière enquête de l'INSEE portant sur le revenu des ménages agricoles. On estime le niveau de vie médian à 1920 euros par mois au niveau régional, une médiane sous laquelle on retrouve le niveau de vie des agriculteurs haut-alpins à 1675 euros par mois. Pour les bas-alpins, c'est à 1640 euros par mois. Un niveau de vie plus faible expliqué par leur spécialisation. Ce sont en majorité des éleveurs qui gagnent moins bien leur vie que des viticulteurs ou des producteurs fruitiers. À la ressource, trouver des pépites, c'est possible. Le magasin de la Petite Ourse organise aujourd'hui sa 3e édition de Culture Mix. Au quotidien, cette ressourcerie qui accompagne des personnes vers l'emploi lutte contre le gaspillage en donnant une seconde vie à de nombreux objets. Aujourd'hui, les passionnés de culture vintage pourront débusquer des petits trésors comme des vinyles, des bandes dessinées, mais aussi des jeux vidéo. De quoi trouver son bonheur à petit prix, souligne Jean-Philippe Dicoumé, encadrant technique à la Petite Ourse à Gap.
Là, ce sont une sélection, on va dire, de vinyles, de BD, voilà, qu'on a récupéré là sur les à peu près 10-12 derniers mois et qui seront présentés à cette occasion. L'idée, c'est aussi de permettre aux collectionneurs ou aux amateurs, ben, notamment de vinyles, de compléter leur collection ou de démarrer une collection en trouvant des petites pépites à très bas prix, là encore. Il y en aura pour tout le monde, dans tous les styles. C'est plutôt assez éclectique comme sélection. On trouve des vinyles de classiques, mais de rock, alors du rock français, mais du rock international également. On a récupéré, je sais, des disques des Who, des Beatles, des Stones, du groupe Yes, par exemple. Dans d'autres styles musicaux, bien sûr, du jazz, de la soul et du funk aussi, pour ceux qui aiment. Enfin, voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. On va avoir une sélection de, je dirais, entre 500 et 600 vinyles et pas loin de 1000 BD.
Le rendez-vous est donné entre 18h et 21h ce soir à la ressource à Gap. On reste justement dans la ville haut-alpine, à l'Alpe Arena plus précisément, où l'opération maintien en Ligue Magnus débute ce soir à la maison pour les Rapaces contre Cergy Pontoise à 20h. Un match important pour les Gapensais, actuellement dernier en position de relégable en division 1 avec 43 points à égalité avec Anglette. Les Basques sont justement les adversaires de Briançon à la patinoire René Froger à partir de 20h. Grâce à leur excellent début d'année 2025, les Diables Rouges de Briançon ont un peu moins la pression dans cette poule de maintien. Avec 51 points, ils sont premiers devant les Jokers de Cergy Pontoise et comptent pour leur 8 points d'avance sur la place qui les enverrait en division 1. Une victoire des Rouges et Noirs ce soir sur leur adversaire rendrait bien des services aux joueurs gapensais dans leur quête pour le maintien.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.